Allô? Il paraît qu'ils vont libérer la croissance. Mais elle était prise en otage, la croissance. Et pourquoi ils nous l'ont pas dit? Elle est où alors, la croissance? Oh, la petite croissance! La petite croissance! Elle était en otage! Ils nous ont même pas prévenus! Et maintenant ils nous disent oui, on va la libérer! Et ils ont demandé une rançon ou pas? Et on sait qui c'est? Rendez-nous la croissance! Rendez-nous la croissance! Non mais tenez-nous au courant! On savait même pas qu'elle était prise en otage! Putain! Vraiment, ils nous disent plus rien du tout aux infos! Hein. Maintenant, ils nous disent. Ah d'accord, bon. Allez, ciao! Aïe aïe aïe! Ah ben, tout entendu! Eh, hey, ciao, à bientôt! Hein. N'oubliez pas votre parachute!
Salut Daniel! Il y a une émission super marrante sur la 3 avec Max Mégalo et la nièce de l'autre, la Drucker. Mais les CRS, ce seraient les stars méconnues de 1968. Si je te jure.
Salut. AMG de mon cœur, salut. Dans le pieux silence médiatique, orchestré et maintenu, je vous donne des nouvelles généreuses au sujet de la lutte contre la ratification parlementaire du traité de Lisbonne. Quoi ? Vous n'êtes pas au courant ? Ah, comment le seriez-vous ? Tout est bâillonné, au secret, sous la table, sous le manteau. On vous parle des pétitions. On vous parle déjà moins du rassemblement à Versailles le 4 février. Et oui, le Congrès risque de voter contre la volonté du peuple, et on ne vous le dira que quand ce sera fait, évidemment. Eh bien moi, AMG attentif, je vous donne des nouvelles de la plainte collective auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français qui s'apprête à violer le droit des peuples. Du peuple. Nous sommes un millier de citoyens à avoir envoyé à Strasbourg une requête pour faire reconnaître le tort qui est fait à la démocratie. À notre démocratie donc. Nous avons les arguments, les avocats et la détermination pour ne pas subir sans rien faire le clone du TCE refusé en 2005. Renseignez-vous. Agissez et rejoignez la plainte collective des citoyens. Utilisons les moyens juridiques pour lutter contre un crime politique. Alors l'adresse du site internet où vous trouverez toutes les informations, www.29mai.eu. 29 en chiffres, mai, M-A-I, tout attaché. www.29mai.eu. Je vous remercie, bonne journée, agissons, merci.
Daniel, ici Michel Thévaud de Lausanne, où se trouve le musée de l'art brut. Écoute, j'ai entendu que tu dis que l'art brut, avec le temps, s'est édulcoré, qu'il est devenu commercial, que c'est un peu comme le surréalisme, c'est devenu mondain. Je m'étonne, je sais pas ce qui te fait dire ça. D'abord, l'art brut comme l'art, c'est une relation, hein, c'est fait de ce qu'on y met, de ce que tu y mets. Et si c'est ça ta relation avec l'art brut, ben, il faut vraiment que tu éclaircisses les choses. C'est vraiment la première fois que je suis pas d'accord avec toi. Tu parles de l'art brut un peu comme les réacs parlent de mai 68 ou des 68 heures. Tu en parles avec commisération, c'est plus ce que c'était. Tu devrais venir à Lausanne voir le musée de l'art brut, ou tu devrais écouter tes propres émissions, hein, celles sur Pascal Audin. Ça montre bien que la question du fric, la question du marché, se pose dans l'art comme elle se pose dans tous les autres domaines, qu'il y a des refuseurs, aujourd'hui plus que jamais, des gens qui refusent la loi du marché, le jugement du marché, et qui font de l'art sans se soucier de sa commercialisation. Bref. Je te conseille un petit voyage à Lausanne.
Oui, bonjour Daniel, c'est Jean-Jacques de Rennes. Alors, la bourse et les aventures de Sarko, c'est bien joli, mais il y a un événement politique dont on ne parle pas et qui va venir très vite. C'est le congrès du 4 février à Versailles, où le Parlement doit se prononcer sur la modification de la Constitution pour ensuite entériner ou non le nouveau traité européen. L'UMP tout seul ne peut pas voter la modification de la Constitution, puisque vous savez qu'il faut réunir les 3/5 des députés. Et si tous les députés de gauche maintiennent le cap à gauche jusqu'au bout, Sarko devra organiser un nouveau référendum. Alors n'attendons pas le 1er février pour nous mobiliser et demandons à nos députés de voter non. Merci.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Monsieur Koulibaly, venant du Mali, installé en France depuis plus de 40 ans, avocat depuis plus de 25 ans, est menacé d'expulsion par un préfet de messieurs Heurtefeux et Sarkozy. Ce genre d'informations nous donne des indications concernant la respiration de notre République. Bravo, monsieur le préfet, c'est admirable et digne dans la carrière d'un haut fonctionnaire. Monsieur Heurtefeux, laissez-moi vous informer, pour que votre action soit complète, de la présence de notre Coulibaly à Craudel, près de Craon, dans l'Aisne, sur le chemin des Dames. Vos limiers le trouveront au cimetière. Il est là depuis septembre 1914. À mon avis, il était venu là sans papier. Et depuis 94 ans, il est là sans carte de séjour. Sa tombe se trouve à côté de celle de mon grand-père, un paysan landais. Messieurs, je vous méprise. Charles Daroman, Lavardac, Lot-et-Garonne.
Ça s'appelle allumer le poste, ce qu'on vient d'entendre. Allumer le poste, c'est-à-dire dire quelque chose qui met le feu. Ce message est tout à fait extraordinaire. Je remercie cet auditeur. Mais ce rapprochement, cette proximité et cette détermination est particulièrement bouleversant, je trouve, et je vous remercie. Je vous remercie aussi les autres, notamment Michel Thévaud, l'ami de Lausanne et son musée de l'art brut. Il a bien raison. J'irai faire un tour, j'y retournerai avec très grand plaisir, voir le musée de l'art brut à Lausanne. Je n'ai nullement dit que l'art brut n'était rien. J'ai dit que l'art brut, comme le reste, était récupéré et exposé à l'usure marchande et à la détérioration marchande en cela, comme en beaucoup d'autres choses. On pourra y revenir plus longuement. Merci à tous, donc, pour ces messages. Aujourd'hui, alors là, on va... C'est sérieux, aujourd'hui. Là, on va essayer d'expliquer quelque chose, de faire comprendre quelque chose qu'on a compris. Celui qui va le faire, c'est François Ruffin. Il a compris quelque chose, François Ruffin, notre ami François Ruffin, de là-bas, si j'y suis, mais aussi du monde diplomatique et aussi de Fakir. Vous savez que François a son journal qu'il a créé à Amiens et qui marche très bien. Et là, il s'est penché sur un phénomène d'économie, disons, d'économie politique, qui passe un peu sous silence et qu'il a baptisé 9-3, non pas comme le département, non pas comme la Seine-Saint-Denis, mais comme un certain pourcentage qui illustre, selon François Ruffin, un hold-up géant. On voit que aujourd'hui les scandales financiers, énormes scandales de la Société Générale, mais ces inquiétudes, ces turbulences qui ont l'air de paniquer les places boursières et ceux qui font partie de cet univers, eh bien ces turbulences ne se limitent pas à cet univers-là, mais retombent dans la vie quotidienne, la vie des salariés, la vie de tous. Mais de quelle façon, quel lien y a-t-il, quelle liaison, oui, peut-on faire entre ces spéculations, ces spéculateurs, ces rentes et leurs avatars et la vie quotidienne des salariés et des gens ordinaires. Ça se résume pour François Ruffin en ces deux chiffres, 9,3. Il va vous en dire plus jusqu'à 16h dans la base, si j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocal de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour aux AMG du Sud-Seine-et-Marne. Le repère de Toussaint au milieu des betteraves du Gâtinais français se tiendra ce dimanche 27 janvier à 15h au café du village, la tête des trains, place de l'église, à Toussaint. Donc, toutes les betteraves endimanchées vous attendent pour assister à la conférence sur les OGM de Christian Vélo en vidéo. C'est bien dommage qu'il ne soit pas là, car sa conférence sur les OGM est vraiment un moment exceptionnel où enfin quelqu'un arrive à expliquer clairement l'histoire de tous les OGM. Mais la projection étant sur un grand écran, c'est comme s'il était là. Alors, pour résumer, que vous soyez pour ou contre les OGM, cette rencontre scientifique est ouverte à tous pour vous éclairer. Le débat ensuite sera animé par Camille et ses copains du fameux CCOMC de Nemours. C'est au café La Tête des Trains à Toussaint, près de Milly-la-Forêt et Malesherbes, ce dimanche 27 janvier à 15h. Venez nombreux et bienvenue à tous de la part de Pierrot, Polo, Dominique. Ciao.
Bon, voilà, ici, Paul, je vais marquer toute mon indignation. Si l'histoire de ce patron de bar dénoncé par un client parce qu'il fumait derrière son comptoir est vraie. Le client, percevant deux flics sur la route, a couru pour leur dire. Ils ont dressé procès verbal. Et en plus de ça, le client est parti sans payer le café. C'est écœurant. Adieu à tous. Écœurant. Je paierai même l'amende. Écœurant. Salut.
Bonjour. La Bible nous apprend que les murs de Jéricho sont tombés sous l'action répétée et tenace des trompettes. L'ère technologique dans laquelle nous vivons reste malgré tout liée à la nature humaine. Le peuple continue d'exister et de manifester dans la rue. Je propose donc à la veille de ce mois de mai anniversaire que dorénavant, dans toutes les manifestations, chaque personne soit équipée de grelots faisant bling-bling. J'appelle donc les forces vives de la recherche en acoustique à créer des grelots bling-bling. J'appelle les bureaux d'études en matériaux à développer ces grelots bling-bling et les méthodes de production. J'appelle les industriels français à mettre leurs moyens de production au service du bling-bling et à le distribuer. Peuple de France, la force est en toi. Bling-bling ! C'était Christian de Néron.
Un seul chiffre, c'est le 9,3%.
9,3%.
9,3%.
9,3%.
9,3%. Un seul chiffre.
9,3%. Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin, le professeur Ruffin. Un hold-up géant, 9-3.
Flight number 2. Arriving from...
L'essentiel de notre rencontre ce soir, c'est évidemment le pouvoir d'achat avec beaucoup d'attente, on l'a dit, des Français. À votre avis, les Français diront, tiens, ça change pour moi. Quel horizon, à votre avis?
Mais tout de suite, comprenez-moi bien. Vous savez, les jeunes sont beaucoup plus raisonnables qu'on l'imagine. Je ne pense pas qu'ils attendent qu'ils soient si sots qu'ils pensent qu'il suffit qu'un président dise quelque chose pour que tout change pour eux. Vous savez, les Français, ils n'attendent pas que je distribue les cadeaux de Père Noël alors qu'ils savent parfaitement bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. La seule façon de répondre à cette question, c'est de permettre aux gens de travailler plus et de gagner plus.
Il n'y a pas d'argent dans les caisses. Voilà ce qu'a dit notre président de la République tout récemment à une Arlette Chabot absolument interloquée. Et c'est avec cette citation que vous avez voulu commencer, cher professeur Ruffin. Le professeur Ruffin, c'est François Ruffin, qui, ce mois-ci, dans Le Monde diplomatique, publie un article intitulé « Partage des richesses, la question tabou ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette question tabou? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un PIB. Et ça veut dire que en 20 ans, la part des salaires dans le PIB a baissé de 9,3%. Et c'est ça qui inquiète beaucoup François Ruffin. C'est-à-dire que cette donnée majeure, selon le professeur Ruffin, est quasiment effacée de du débat public, de la sphère publique. Les médias n'en parlent pas. Et pourtant, tout repose là-dessus. Ça devrait être le recours et la référence permanente en ce qui concerne, eh bien, précisément, ce pouvoir d'achat, aussi bien que les retraites, la sécurité sociale, les régimes spéciaux, etc. Tout devrait se référer à ce transfert de 9,3%. Alors voilà, c'est un peu aride, oui, mais qu'est-ce qui nous arrive? On va faire de l'économie, on va faire de la... Ben c'est ça, ouais, on va faire absolument un cours d'économie politique par le professeur Ruffin. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu toutes ces notions, cher professeur?
Effectivement, je pense que là, il y a une question qui n'est plus posée dans le débat public, c'est la question du partage des richesses. C'est-à-dire comme s'il fallait en permanence avoir de la croissance, produire davantage de richesses, mais sans se poser la question de à qui vont ces richesses, comment on les répartit. Et là, il y a effectivement depuis 20 ans, depuis le début des années 80, un glissement des richesses prises au salariat en faveur du capital. Ça, quand on vient le dire à la base, si j'y suis, on va être qualifié de gauchiste.
Moi, non.
Je tiens tout de suite à prendre mes préventions quant à ça.
Mes distances vis-à-vis de la base, si j'y suis.
Mes distances vis-à-vis d'une analyse de la répartition de richesse. Si on dit qu'aujourd'hui, le salariat touche moins de parts de PIB que c'était le cas il y a 25 ans, je veux pas que ça soit considéré comme gauchiste, donc je vais apporter un certain nombre de citations. Petite devinette, de qui ça provient? La part des profits est inhabituellement élevée à présent et la part des salaires inhabituellement basse. En fait, l'amplitude de cette évolution et l'éventail des pays concernés n'a pas de précédent dans les 45 dernières années. Donc, qui dresse le constat d'un partage de la valeur ajoutée qui n'a jamais été aussi inégal aujourd'hui? Est-ce que c'est ATTAC? Est-ce que c'est la CGT?
Eh bien, non.
Eh bien non, c'est une institution qui s'appelle la BRI, la Banque des Règlements Internationaux, qui rassemble tous les banquiers centraux, c'est-à-dire le banquier de la Fed aux États-Unis, le banquier Jean-Claude Trichet pour la BCE, et tous les banquiers centraux se retrouvent à Bâle, en Suisse, et c'est là qu'ils édictent un certain nombre de règles prudentielles, et ainsi de suite. Et là, pendant l'été dernier, ils ont rendu un document qui n'a pas fait la une des journaux, et dans ce document, ils reconnaissent qu'il y a un très haut niveau de la part du profit inhabituellement répandu aujourd'hui, qu'il y a une marge d'une importance sans précédent, qu'il y a une poussée à la hausse de la part des profits au milieu des années 80, ou son pendant, une poussée à la baisse de la part des salaires. Donc là, on voit bien que le constat mondial, hein, c'est mondial, c'est une tendance mondiale à ce qu'il y ait de plus en plus d'argent qui aille au capital et de moins en moins d'argent qui aille aux salariés.
Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant là-dedans? Pourquoi est-ce que c'est inquiétant? Quelles sont les conséquences de ce glissement?
Alors,
on se dit, après tout, oui, mais est-ce que ce soit les actionnaires ou que ce soit les salaires, après tout, tout ça, c'est des sous, ça circule, chacun s'y retrouve.
C'est pas
les meilleurs gagnent.
Les salariés et les actionnaires, c'est quand même pas les mêmes. Ça inquiète, pour vous dire, qu'est-ce que ça a d'inquiétant? Ça inquiète même Alan Greenspan. Alan Greenspan, qui n'est pas réputé non plus pour être un bolchevique. Alan Greenspan, c'est l'ancien dirigeant de la Fed, et c'est lui qui déclare « J'ai attendu et j'attends encore quelques normalisations dans le partage du profit et des salaires. Ce découplage entre faible progression salariale et profit historique des entreprises fait craindre une montée du ressentiment aux États-Unis comme ailleurs contre le capitalisme et le marché. » Alan Greenspan dit « C'est tellement une répartition injuste aujourd'hui que je crains qu'il y ait une volonté des salariés américains de renverser le capitalisme. » Il le dit pas, encore une fois, à l'Humanité, il le déclare au Financial Times et à la Tribune. Quoi.
Alors ce transfert en 20 ans, il s'est donc opéré au détriment des salaires, au détriment des salariés, de quelle façon?
Alors, peut-être qu'on peut le chiffrer auparavant, ce transfert.
Mm-hmm.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il y a en France 9,3% des richesses qui sont passées du travail vers le capital? Ça veut dire que en 1982, par exemple, il y avait 66% de la valeur ajoutée du pays qui partait en salaire. Aujourd'hui, on est passé à 9 points de moins, entre 56 et 57%. Vous voyez, donc il y a 10 points de la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça représente, 10 points du PIB de la France? Le PIB de la France, c'est 1 800 milliards d'euros. Ça veut dire que par rapport à la situation du début des années 80, il y a 180 milliards d'euros en plus qui vont au capital chaque année. Alors qu'au début des années 80, ces 180 milliards-là partaient aux salariés, aujourd'hui ces 180 milliards partent au capital, au profit des profits. 180 milliards, c'est une somme tout à fait considérable. Parce qu'on nous parle en permanence du déficit de la Sécu, du trou de la Sécu, du déficit des régimes de retraite, mais le déficit de la Sécu cette année, c'était 12 milliards d'euros. C'est-à-dire 15 fois moins à peu près, avec ces 180 milliards, on a 15 fois de quoi remplir le trou de la Sécu. De la même manière, les déficits des régimes de retraite, c'est 5 milliards d'euros. Donc vous voyez, on a 30 fois, 40 fois presque, de quoi remplir le déficit des retraites. Pareil pour les régimes spéciaux qui étaient aux alentours de 5 milliards d'euros. Donc c'est un ordre de grandeur qui est tout à fait considérable, là, ce transfert de richesse. Alors maintenant, je reviens à votre question. Comment ça s'est produit?
L'économie aujourd'hui, Stéphane Leneuf est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre.
Air France, les cheminots, la RATP, les fonctionnaires. 6 mois après son élection, Nicolas Sarkozy est confronté à un climat social, Stéphane, de plus en plus tendu.
Oui, effectivement, 5 jours de grève et Air France a sorti d'une belle pagaille dans les aéroports. C'était du jamais vu. Tension sociale également chez les cheminots et les électriciens. Même chose à la RATP. Et puis tension chez les fonctionnaires qui ont claqué la porte des discussions salariales vendredi avec Eric Woerth. Alors tous ces mouvements, certes, n'ont pas grand-chose de commun entre eux. Les cheminots défendent leurs acquis sociaux en matière de retraite. Les fonctionnaires grognent après la rigueur des suppressions de postes. Les hôtesses et les stewards revendiquent de récolter sur leur fiche de paie le fruit de leurs efforts consentis depuis plusieurs années pour redresser la compagnie. Il n'y a donc aucun réel dénominateur commun entre tous ces mouvements, des mouvements qui restent pour l'instant très corporatifs.
Stéphane Leneuf, il est 7h25.
Alors là, on vient nous dire qu'il y a aucun de dénominateur. Il y a un travail de division qui est effectué entre plusieurs réformes qui sont en cours où on nous dit il n'y a pas de dénominateur commun, il n'y a rien de commun entre tout ça, ce sont des mouvements corporatistes. Or, je pense qu'il y a un dénominateur commun. Ce dénominateur commun, c'est le chiffre que vous avez cité pour commencer l'émission, c'est le 9,3%. C'est-à-dire que ces 9,3% condensent en un seul chiffre toute une évolution de l'économie française depuis 20 ans. C'est-à-dire que si les actionnaires étaient venus piquer directement l'argent dans les poches des salariés, évidemment les salariés, ils se seraient révoltés, ils auraient appelé la police, Sarkozy serait intervenu et ça aurait pas pu se passer comme ça. Donc ça s'est passé de manière plus douce et de quelle manière ? Ça s'est passé d'abord, premier biais, par des suppressions de postes. Des suppressions de postes, on voit aujourd'hui dans le public, mais surtout on a assisté à des tas de suppressions de postes dans le privé, y compris tandis que les entreprises pouvaient engranger un certain nombre de dividendes.
À cause des exigences des actionnaires.
Évidemment. Et la conséquence, c'est que il y a plus de salaires qui sont versés là, un certain nombre d'ouvriers, employés, ainsi de suite. Ce qui fait que ça réduit fatalement la part des salaires dans la valeur ajoutée quand on leur verse plus de salaires. Quand on leur verse des indemnités chômage, du RMI, ainsi de suite.
Donc ce glissement de 9,3, voilà un effet. C'est l'effet le plus terrifiant. C'est des suppressions d'emplois.
Exactement.
Pour l'usine Over de Dijon, la décision est définitive, c'est le chômage qui attend tous les employés.
L'usine Yoplait d'Ivry doit fermer ses portes au mois de juin, 130 emplois sont supprimés. Près de 2600 suppressions d'emplois sur 4 sites, Sochaux, Mulhouse, Sept-Fonds et Lille. La pilule est amère.
Le jour est vraiment malade aujourd'hui, malade de la maladie des profits, je dirais. Plus il en fait, plus il en veut. Et c'est plus supportable. Les milliards qui ont été réalisés par les salariés, il faut qu'ils servent à l'embauche, il faut qu'ils servent à travailler mieux, moins longtemps. Les plans sociaux suivent l'un derrière l'autre. C'est plus tolérable, il faut vraiment y mettre un coup d'arrêt aujourd'hui.
Le Chirac, on est licencié.
Bonjour, ça va ?
Très bien. On est licencié.
Autres effets.
Autres effets. Le deuxième biais, c'est que comme il y a eu cette peur du chômage qui a monté, qu'est-ce qui s'est produit ? S'est produit quelque chose que l'INSEE a rendu public au cours de l'automne, c'est-à-dire une stagnation des salaires depuis 25 ans. Depuis 25 ans, les salaires n'ont pas augmenté en France quand on prend en compte les temps partiels. Alors là, il faut juste avoir une donnée. En 1987, entre 1987 et aujourd'hui, les salaires n'ont pas augmenté en France. Et pourtant, en 1987, c'est l'année où est créé le CAC 40. Le CAC 40 est créé à cette époque-là avec un indice 1000. Aujourd'hui, malgré le crack, le mini-crack boursier pour l'instant, il est coté à 4848 points. C'est-à-dire que pendant que les salaires stagnaient, eh bien, il y a eu une augmentation du CAC 40 de 380%. Donc là, on voit bien qu'est-ce que ça signifie la répartition des richesses dans ce pays. Sachant que on tient même pas compte, quand on énonce la hausse de la bourse, on tient même pas compte des dividendes qui sont reversés aux actionnaires.
Alors, perte d'emploi, stagnation des salaires depuis 87.
Troisième point, ça va être l'augmentation de la flexibilité. Alors, flexibilité, c'est le mot patronal. Le mot syndical, ça va être précarité. Mais on la voit très clairement. C'est un article du Monde qui dit que depuis 1980, la proportion des travailleurs à temps partiel est passée de 6 à 18% de l'effectif salarié total et celle des autres formes d'emploi atypiques, intermittence, intérim, etc., de 17% à 31% du salariat. Donc là, on a un triplement de la part d'employés précaires, d'employés à temps partiel dans le pays. Ça, évidemment, ça a des conséquences sur la répartition de la valeur ajoutée, puisque ça veut dire qu'il y a moins de temps improductif que sont amenés à payer les entreprises. Elles n'emploient les gens que quand ils sont directement productifs. Donc ça, c'est évidemment un biais par lequel se fait la répartition des richesses. Un emploi jetable, sur mesure, qui s'est ajusté aux besoins variants des entreprises. Le dernier point, il est plus directement sur le salaire. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de verser du salaire. Il y a ce qu'on appelle le salaire direct, c'est ce que vous touchez, c'est votre pouvoir d'achat, et il y a le salaire indirect. Le salaire indirect, ce sont les retraites, c'est la sécurité sociale, et ainsi de suite. Et ce qu'analyse un certain nombre d'économistes, c'est que dans un premier temps, on a les entreprises, enfin disons les actionnaires, ont tapé sur le salaire direct pour augmenter leurs profits. Aujourd'hui, c'est sur le salaire indirect. Il va falloir cotiser plus longtemps pour toucher moins. On va cumuler retraite et emploi. Il va y avoir des franchises médicales. Il y a des déremboursements de médicaments. Donc tout ça, c'est le dernier biais sur, en tapant sur le salaire indirect. Dans la mesure où on peut plus faire baisser le salaire direct qui a déjà stagné depuis 25 ans. Aujourd'hui, il s'agit de supprimer les petits avantages, les petits à côté du salariat.
CAC 40, ouais.
Serge Dassault.
Vous savez, l'embauche et le licenciement, c'est une question qui est liée à l'économie, à la production. Si on empêche les entreprises de licencier, elles n'embauchent pas.
Bon. Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Les Français sont paresseux.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et donc, comme des imbéciles, on ne dit rien, avec les choses qui n'ont pas de travail. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Julie, ça fait 3 ans. 3 ans que Julie fout rien. Toi, ça fait 2 ans que tu fous rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne fout rien. Vous faites rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas. Franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher.
Bah, toi, pareil, c'est quand on va aller
avec. Bah, si, c'est que quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, on n'a qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pour pas travailler.
35 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35
Mais
heures.
Vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus si elle travaille moins.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con. Tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout. Il faut travailler plus, on travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux.
On l'entend, hein, ces phrases depuis des années. On fait pas attention, ça rentre doucement, doucement, doucement dans les têtes. Hein, quand on se lave les dents du déjeuner, quand on va, on vient, on roule, etc. Et puis ça fait son chemin dans les esprits, peu à peu, jusqu'à s'installer comme quelque chose qui va de soi, une normalité, une doxa, comme on dit. Chez les savants. Et là, le camarade de François Ruffin, alias le professeur Ruffin, eh bien, il a travaillé, il a gratté sur cette question-là. Ça fait un bout de temps qu'il travaille là-dessus. Et il est arrivé à l'idée, qu'il est en train de développer, pour nous, l'idée d'un hold-up géant appelé 9-3, c'est-à-dire un glissement, à l'intérieur du PIB de la part des salaires au profit des actionnaires et les conséquences que cela représente. Et ce phénomène, appelons ça comme ça, c'est assez curieux qu'il soit devenu un tabou, que et les médias et le monde politique et tous ceux qui pourraient en parler n'en parlent pas consciemment, inconsciemment, parce que ça va de soi, parce que c'est normal, parce que c'est une doxa. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre si longtemps, la France a dû attendre si longtemps cette émission de la Basse, j'y suis avec le professeur Ruffin pour apprendre tout ça?
Non, c'est pas ignoré. Il va y avoir une difficulté pour votre émission, ça va être l'illustration de ça. Parce que si vous écoutez, pendant tout l'automne, il y a eu des débats sur les régimes spéciaux de retraite. Il y a eu des débats sur le pouvoir d'achat. Le débat continue aujourd'hui avec une manifestation sur le pouvoir d'achat. Et pourtant, si on écoute ceux qui tiennent la parole, les éditorialistes économiques, jamais ils n'évoquent la question du partage des richesses. En permanence, ils raisonnent en termes de croissance. Leur solution, c'est le boom des services à la personne. Mais alors ça, c'est des emplois précaires, c'est des emplois à temps partiel, c'est d'ouvrir le dimanche, c'est la flexi-sécurité. C'est ça.
Travailler plus pour gagner plus.
Alors ça, c'est ce que va venir dire derrière le président Nicolas Sarkozy. Qui effectivement, lui, quand on lui dit comment on fait pour augmenter le pouvoir d'achat, ne va jamais répondre en termes d'égalité, de justice sociale, mais en permanence en termes de croissance, de travailler plus pour gagner plus, et ainsi de suite, quoi. Et donc il y a une occultation complète à la fois par les médias et par le gouvernement, de la question de la répartition de la valeur ajoutée dans le pays.
Je ne transigerai pas sur l'affaire des 37 années et demie de cotisation qui doit passer à 40. Il s'agit de trouver les moyens de financer un régime qui a besoin qu'on travaille plus longtemps pour pouvoir être financé.
Et pour
comme on vit plus longtemps, si on cotise pas plus longtemps, c'est pas possible de le financer. Il y a un gigantesque problème de pouvoir d'achat. Comment le résoudre? En permettant aux gens de travailler plus pour gagner plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez ce qu'on dirait de moi si je proposais aux Français de gagner plus sans travailler plus. Je dirais, ils le fabriquent cet argent? Comment il fait? Bon, alors sur les 35 heures, écoutez, d'abord nous sommes le seul pays au monde à nous être dotés de cette législation. Il n'y en a pas un autre. Et on l'a payé de deux problèmes, plus de chômeurs que les autres, parce qu'un pays qui travaille moins que les autres, c'est un pays qui crée moins de richesses et qui a moins de croissance. Et toute ma stratégie économique, c'est de libérer les forces de travail dans notre pays pour gagner ce point de croissance qui nous manque.
Dans le même temps, vous avez quand même prévu la franchise médicale, ce qui est un problème aussi pour le pouvoir d'achat des gens. Et ça veut dire aussi que ça va les pousser à avoir des assurances privées et peut-être à aller vers une médecine à deux vitesses.
Nous avons un gigantesque défi devant nous, celui de la maladie d'Alzheimer. Il faut de l'argent supplémentaire. Où est-ce que je vais le trouver? De tous les côtés, on me dit... plus pour la recherche Alzheimer, plus pour la recherche sur le cancer, plus pour les soins palliatifs. Où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'on les trouve? À ceux qui me disent que la franchise, c'est pas gentil, peut-être, mais où est-ce qu'on trouve l'argent? Je le fabrique pas. Je veux dire la vérité aux Français.
Si on écoute ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse, il y a plus, on n'a plus, je peux pas distribuer les cadeaux de Père Noël car les Français savent bien qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses. Je n'ai pas le pouvoir d'augmenter les salaires. Pour donner du pouvoir d'achat, il faut réhabiliter le travail. Le lendemain, toute la presse acclamait la prestation de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas été démagogique, puisque avec habileté, il avait tracé un programme de réforme et ainsi de suite. Quoi. Ce qui m'a paru intéressant, c'est que là, je lisais ça donc dans Les Échos. Je lis ça dans Les Échos, et quelques pages plus loin, dans la même édition, je découvre l'information suivante. Grande plaisance, la course au luxe. Les millionnaires, toujours plus nombreux, sont lancés dans une course sans fin au plus grand, au plus beau, au plus luxueux yacht. Dans ces châteaux des temps modernes, le robinet à 8000 euros plaît beaucoup. Là, vous voyez, on est à deux pages. En une, on annonce que le pouvoir d'achat stagne depuis 25 ans et que Nicolas Sarkozy n'y peut rien. Deux pages plus loin, on découvre qu'il y a des yachts qui sont de plus en plus luxueux. Et on tourne encore deux pages, et on aperçoit un autre papier qui est intitulé « Les hôtels particuliers ont la cote, la mondialisation crée de plus en plus de multimillionnaires ». Et on ouvre le monde et on découvre que ce jour-là, à côté du pouvoir d'achat qui stagne pour les salariés, il y a en vente des chaises à 9397 euros. Et on ouvre le Figaro.
C'est les chaises pour aller dans le yacht.
Bah, peut-être. Mais
et regarder le robinet en or
à 8000 euros. Mais simplement, établir aujourd'hui ce lien entre un pouvoir d'achat qui stagne pour la majorité de la population, entre des emplois précaires et ainsi de suite, et quelques pages plus loin, pourtant c'est juste à côté, avec des riches qui sont de plus en plus riches et la croissance des multimillionnaires qui se payent des robinets à 8000 euros, aujourd'hui, tisser ce lien entre les deux extrémités de l'échelle sociale, c'est démagogique, c'est populiste, c'est malvenu, c'est indécent.
Je pense qu'il faut que des fortunes puissent se bâtir. Je pense que nous avons tous le droit de devenir riches. Plus il y a de riches et moins il y a de pauvres.
Vous parlez un libéral, hein?
Je suis un libéral.
Moi, je suis libéral au sens...
Au sens où je crois à la liberté.
Ben, idéologique.
Mais je suis également un humaniste.
Dis-moi ce que tu gagnes, je te dirai qui tu es.
2600 francs, je parle en francs, mensuel, net.
Mais c'est comme ça, c'est la réalité du monde libéral.
Par exemple?
Nous pensons, par exemple, que le coût du travail peu qualifié reste très élevé en France et que ça gêne les embauches.
Donc ça, c'est votre fiche de paye de septembre. Alors en haut, il y a marqué Carrefour. Et en bas, combien vous êtes payé?
Net, 837 euros. 63.
Le capitalisme n'est pas parfait, mais juste, il faut en accepter les règles.
Ouais, si j'étais...
Riche.
Alors, que ça soit populiste, démagogique... pour Jean-Marc Sylvestre, que ça soit populiste et démagogique, pour Alain Charbot et Patrick Poivre d'Arvor, que ça soit démagogique, parce que c'est une question qui aurait pu être posée. Arlette Chabot, normalement, si elle faisait son travail, elle pouvait poser la question à Nicolas Sarkozy de ce qu'il pensait de cette injuste répartition des richesses, de ce glissement de 9,3% du travail vers le capital. Bon, ça, c'est une question qui ne se pose pas. Bon, alors que Nicolas Sarkozy ne la pose pas non plus, on le comprend, lui, qui, le soir de son élection, dîne aux Fouquettes avec l'ensemble du CAC 40. Si on vient dire il faut que ces 9,3% repartent aux salariés au détriment du capital, on comprend que ses amis vont pas être tout à fait contents. Ce qui est plus inquiétant, à mon sens, c'est que la gauche elle-même, la gauche gouvernementale en tout cas, n'en dise rien non plus. Non seulement les médias n'en disent rien, non seulement la droite n'en dit rien, mais quand on écoute, quand est-ce qu'on a eu François Chérec, donc le leader de la CFDT, quand est-ce qu'on a eu François Hollande, quand est-ce qu'on a eu Bernard Thibault, quand est-ce qu'on a eu Manuel Valls, quand est-ce qu'on a eu Vincent Peillon qui, invités le matin sur France Inter, sont venus brandir ces 9,3% et dire « Bon, vous voyez, ces réformes, il y a moyen de ne pas réformer, de ne pas mener ces réformes, puisqu'il y a 180 milliards d'euros qui ont glissé de la poche du travail vers la poche du capital. » Jamais ça n'est utilisé. Alors que, à mon avis, c'est le point central pour contrer la nécessité, puisqu'on parle en permanence de nécessité, la nécessité de toutes les réformes.
Mais c'est vrai qu'il aurait fallu dire plus clairement que nous sommes favorables à l'harmonisation des régimes de retraite et donc à l'alignement des régimes spéciaux sur le régime général de la fonction publique. Pour partir au même âge, il n'y a pas 36 solutions. Il faudrait accroître les cotisations. Les Français, évidemment, ne le supporteront pas. Il faudrait baisser les taux de pension. Ça serait un véritable scandale. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur un allongement progressif de la durée de la cotisation. Ça vaut, évidemment, pour les régimes spéciaux. Ça vaudra demain pour le régime général. Là où nous ne sommes pas toujours au clair, c'est que nous n'avons pas le courage de dire clairement les choses. Par exemple, nous aurions dû être plus clairs et plus courageux en 2003 au moment de la réforme Fillon.
Quand on écoute Manuel Valls qui passe sur France Inter, quand il passe sur France Inter, c'est pour venir dire que le courage aujourd'hui, le courage consiste à ne pas lutter contre ces réformes. Le courage consiste à venir dire que ces réformes sont absolument nécessaires. Que là, on voit très bien que la logique de la gauche du gouvernement est plus une logique de combat. C'est plus une logique de dénonciation du mur de l'argent et de confrontation à ce mur de l'argent, quand le courage consiste non plus à se battre contre lui, mais au contraire à se résigner le plus vite possible. Je crois qu'il faut revenir sur un événement qui s'est produit pendant la campagne électorale. Il y a eu un événement qui était absolument considérable et qui pourtant, vous voyez, c'est de ces choses qui sont dites un jour et le lendemain, c'est comme si c'était naturel qu'elles disparaissent de l'actualité. Je citerai encore Les Échos pour pas être accusé d'être partisan ou donc c'est Les Échos du 14 mars dernier, donc en pleine campagne électorale. CAC 40, les profits grimpent, les dividendes s'envolent pour les actionnaires. Ensemble, les 40 stars de la bourse ont dégagé des bénéfices en hausse de 15% en 2006. Jamais ces sociétés n'avaient gagné autant d'argent ni dégagé une telle rentabilité. Dans le même temps, elles comptent augmenter leurs dividendes de 35%, preuve de confiance en l'avenir, etc., etc.
La revue de presse de Clotilde Dumetz. Bonjour Clotilde.
Les profits des entreprises du CAC 40, avec cette interrogation en une de l'humanité. 100 milliards de profits, on en fait quoi ? Pour l'humain, il y a là de quoi répondre aux besoins de financement des salaires, de la santé et des créations d'emplois. Bref, il y en a marre, s'insurge Le Quotidien, marre que les actionnaires écrasent les salaires. Alors dans Libération, sur le même sujet, le CAC 40 casse la baraque. L'interview d'un économiste, Frédéric Lordon. Il propose une taxe sur les marges qui dépasserait une limite autorisée. Pour lui, seul le politique peut réagir contre la démesure du capital actionnarial. Jean-Louis Gombeau a fait les comptes. Dans Nice Matin, les profits de Total, EDF, GDF approchent 20 milliards. Mais on s'aperçoit que les grands de l'énergie préfèrent souvent acheter des concurrents plutôt que de se lancer dans des infrastructures coûteuses. Du coup, avec cet argent, on ne fera que créer de nouveaux monopoles privés au lieu d'être publics. Mais on ne résoudra rien quant aux capacités de production et de distribution de l'énergie. On ne voit pas bien ce qu'on y gagne. Le sujet rebondit bien évidemment avec GDF qui a publié hier le meilleur résultat de son histoire. Et oui, note Les Échos, ces bons résultats relancent le débat sur les tarifs. S'il y a une baisse, prévient le journal, ce sera au 1er juillet, ce qui énerve les associations de consommateurs qui demandent une baisse immédiate et souhaitent plus généralement que les baisses de prix se répercutent avec la même réactivité que les hausses sur les factures.
profit record, dividende record, ça ne s'est jamais produit en France, etc. Ça se produit en pleine campagne présidentielle. Normalement, on se dit, quelle aubaine pour la gauche. Quelle aubaine pour la gauche qui va pouvoir venir dire, regardez les riches qui s'enrichissent pendant que les salaires stagnent, pendant qu'il y a de plus en plus de précarité, pendant qu'on a voulu mettre en place le CPE, et ainsi de suite. C'est une véritable aubaine. Et pourtant, on écoute, on relit aujourd'hui, je relis les discours de Ségolène Royal, je tape le mot milliard pour voir quand est-ce qu'elle dénonce ce glissement dans le partage de la valeur ajoutée, quand est-ce qu'elle dénonce les milliards qui sont reversés aux actionnaires, ça n'apparaît pas. Chaque fois qu'elle utilise le mot milliard, c'est de la même manière là que Nicolas Sarkozy, c'est pour dénoncer le trou de la sécu, c'est pour dénoncer le déficit des retraites et ainsi de suite. Quand on regarde, quand est-ce qu'elle emploie le mot lutter, Ségolène Royal ? Elle ne lutte plus contre un adversaire, d'ailleurs elle dit même, je ne désignerai ici aucun ennemi. Elle ne lutte plus contre un adversaire, elle lutte contre des événements qui sont sans cause réelle. C'est-à-dire sans agent social. C'est la lutte contre toutes les formes d'insécurité, contre le décrochage scolaire, contre les violences faites aux femmes, contre la vie chère et ainsi de suite. En revanche, le mot rentier qui, compte tenu de l'importance des dividendes, on vit aujourd'hui l'époque des rentiers, qui devrait être un point important de sa campagne, le mot rentier n'apparaît à aucun endroit dans le discours de Ségolène Royal. La finance est seulement nommée deux fois en 42 discours. Les dividendes le sont une seule fois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on ne nomme pas un adversaire social, on ne nomme pas un adversaire politique à combattre. Du coup, le discours de combat va se retrouver davantage, le discours de l'affrontement, de la confrontation dans la parole de Sarkozy que dans celle de Royal.
François, oui, moi ce que je note dans ce papier que vous avez publié dans le diplôme, dans le Monde diplomatique de ce mois-ci, c'est que ce transfert, c'est quand même ça qui me frappe le plus, c'est que ce transfert des richesses du travail vers le capital qui s'est opéré au cours de ces 20 et quelques dernières années se fait au détriment. C'est ça le plus important à retenir, se fait au détriment du travail, se fait au détriment des salaires. C'est ça qui est important, parce qu'on se dit, bon, bah ils sont riches, tant mieux pour eux, ils ont des robinets en or, bof, après tout, moi, si j'en avais, je m'en profiterais peut-être. En fait, il faut bien comprendre, c'est que ces records de CAC 40, ces enrichissements, ces actionnaires, et ces augmentations de richesse de l'actionnariat et de la rente, se fait au détriment des salaires à travers la précarité, à travers la stagnation des salaires, à travers les suppressions d'emplois, à travers la réduction de tout ce qui est, on va dire, le social.
C'est ça.
Je le souligne et j'y insiste parce que c'est pas du tout présent dans le discours, c'est pas présent dans les médias et c'est pas présent dans l'opinion.
C'est-à-dire, pour que les pauvres soient moins pauvres, ou pour que les travailleurs soient vivent plus confortablement, parce qu'il s'agit pas seulement des pauvres. Il y a deux solutions. Soit on répartit plus justement les richesses qui sont produites, mais c'est pas du tout l'objectif aujourd'hui, ni du gouvernement, ni du discours médiatique, ni non plus, j'insiste, du discours de la gauche gouvernementale. On n'est pas dans la plus juste répartition des richesses, alors que ces richesses existent. Elles sont dans quoi ? La deuxième solution, c'est soit on répartit mieux le gâteau, soit, deuxième solution, on agrandit la taille du gâteau. Et aujourd'hui, on vient nous dire que la seule solution pour que les pauvres soient moins pauvres, pour que les travailleurs vivent plus confortablement, c'est d'agrandir le gâteau. Agrandir le gâteau, c'est quoi ? C'est la croissance. Vous voyez ? On vient nous dire que il nous manque un point de croissance, qu'on met en place une commission de libération de la croissance pour gagner ce point de croissance. Que sans ce point de croissance-là, on est condamné non seulement à ne pas augmenter les salaires, mais surtout à vivre des régressions sociales en série. Or, là, il faut prendre un petit peu de recul historique. Sur l'ensemble du XXe siècle, la croissance moyenne est de 2% hors des 30 glorieuses. Aujourd'hui, bon an, mal an, ces dernières années, la croissance française tourne également aux alentours de 2%. Donc on n'est pas du tout dans une situation qui serait une situation de crise. On appelle ça une croissance molle. Notre croissance molle, c'est somme toute une croissance normale. Et pourtant, il y a tout un discours idéologique qui voudrait nous faire croire qu'avec ces 2% de croissance, grosso modo, plus ou moins, on est condamné à la régression sociale et condamné à ce que les salaires stagnent. Et non, tout dépend à qui vont ces 2% de croissance. Est-ce que ces 2% de croissance vont en augmentation de salaire ou est-ce que ces 2% de croissance vont en augmentation des dividendes ? Ça, c'est la question qui, dans le débat public, n'est pas autorisée. Parce que avoir, comme on en rêve, une croissance à 4, 5, 6%, ça n'est possible que dans les pays qui sont en hyper-développement, et c'est pas, ça sera pas le cas de la France vraisemblablement demain. Et c'est possible aussi pendant les périodes de rattrapage, ce qui était le cas de la France des 30 Glorieuses. Mais aujourd'hui, il va y avoir, encore une fois, on va tenter de soigner le mal en aggravant le mal. C'est-à-dire, on a déjà des travailleurs qui sont précaires, mais pour gagner ce poids de croissance supplémentaire, on va proposer un certain nombre de mesures. C'est toutes les mesures qui sont proposées par le rapport de la commission Attali. On va proposer des tas de mesures pour gagner un point de croissance supplémentaire en finalement flexibilisant encore davantage, en redéfinissant le licenciement économique, c'est-à-dire permettant des licenciements plus faciles, en diminuant les dépenses publiques, et au premier rang des dépenses publiques, ce qui est proposé d'être diminué, c'est la mise sous condition de ressources des allocations familiales, et ainsi de suite. On va augmenter la CSG. Enfin, donc, pour soigner le mal, on prétend chercher à augmenter la croissance, on aggrave le mal, quoi. On propose des dimanches ouvrés, c'est-à-dire des tas de mesures qui vont directement peser sur les salariés, quoi. Et là, c'est vrai que vous avez trouvé que c'est une obsession, mais je pense que normalement la gauche doit s'opposer à ce type de discours. On entendait pendant la campagne présidentielle Ségolène Royal, qui à la place de proposer une plus juste répartition des revenus, disait « Nous relancerons la croissance économique ». Donc là encore, le mot croissance qui revient 69 fois dans le discours de Ségolène Royal, alors que le mot rentier n'apparaît pas une seule fois. « Nous relancerons la croissance économique parce que nous réconcilierons les intérêts des entreprises et les intérêts des salariés. » Voilà la clé du développement économique.
Et je le dis ici, nous relancerons la croissance économique. Parce que nous réconcilierons les intérêts des entreprises et les intérêts des salariés. Voilà la clé du développement économique. Nous le ferons et je le ferai en modernisant le dialogue social. Et on sait bien que c'est là que se trouvent les ressources de valeur ajoutée, de productivité.
Donc là, on a une gauche qui est totalement rangée sur la position de la droite, sur une position ultra-conservatrice, qui est de dire, tant qu'on n'a pas une croissance qui est à 4, 5, 6%, il n'y a pas de possibilité d'améliorer la condition salariale, il n'y a pas de possibilité de progrès social dans le pays. Or, le Front populaire et les congés payés, un certain nombre d'autres mesures ont été prises au cours du XXe siècle, dans des périodes où la croissance n'était pas supérieure à 2%.
Conclusion.
La conclusion, il y a la nécessité de se demander comment faire aujourd'hui pour regagner, non pas pour perdre encore, parce que là, ce qui nous est annoncé, c'est qu'on va perdre encore. L'allongement de la durée de cotisation pour avoir une retraite, c'est une perte pour le salarié. C'est encore cotiser plus pour pas gagner plus, quoi. Face à ça, il y a la nécessité de se demander comment on fait pour regagner les 9,3% ou au moins une partie de 9,3% qui nous ont été pris. Comment on regagne ces 180 milliards qui nous sont pris chaque année? Ça passe effectivement, à mon avis, par la taxation des capitaux, mais ça faudrait voir des économistes plus compétents pour en discuter avec eux. Ça passe aussi par un mot qui est devenu un mot tabou dans ce pays, c'est le protectionnisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme je l'expliquais, la mondialisation favorise ce qui est le plus mobile. Ce qui est le plus mobile, ce sont les capitaux. Ce qui est le moins mobile, ce sont les travailleurs. Ça, je le dis, mais je suis pas le seul à le dire. Moi, je suis rien. Je suis François Ruffin. Je suis reporter.
Oh.
Non, mais c'est vrai. Ma légitimité.
Que de modestie.
C'est simplement par des lectures, par des recherches, par des coups de fil auprès d'économistes, par des appels auprès de l'Institut de recherche économique et sociale. Là, par la lecture du seul prix Nobel d'économie français qu'on ait, qui s'appelle Maurice Allais. Qui est un vieux monsieur, mais qui continue de produire, qui est toujours vivant, qui est très peu interrogé. Pourquoi? Parce que ce monsieur met en lumière, lui aussi, un partage de la valeur ajoutée qui est inégal, qui est injuste dans le pays, et parce que ce monsieur vient dire, pour qu'il y ait une plus juste répartition des richesses, une première mesure à prendre, c'est un retour au protectionnisme. Protectionnisme qui soit au niveau français, ou mieux, au niveau européen. Mais ce mot protectionnisme, c'est aussi devenu un mot tabou. Parler de partage des richesses, parler d'égalité, parler de protectionnisme, ce sont des mots qui sont devenus tabous et qui sont devenus tabous même à gauche, quoi.
Ce Ceci n'est ni un rapport, ni une étude, mais un mode d'emploi pour des réformes urgentes. Voilà comment Jacques Attali et la quarantaine d'experts de sa commission ont présenté aujourd'hui le résultat de leur réflexion. Un travail ambitieux, puisqu'il énumère quelque 300 décisions pour changer la France, avec l'espoir d'aboutir à un point de croissance en plus et au plein emploi pour 2012.
Ce rapport ne peut pas être qualifié de libéral, mais de libre, ne peut pas être caractérisé de partisan, mais de juste, et ne peut pas non plus être mis à l'étude, puisqu'il a été étudié. La seule chose qu'on peut faire avec lui, c'est le mettre en œuvre ou le mettre au placard.
Voilà, les choses sont claires et nettes. C'était hier soir sur TF1, Jacques Attali, et c'était auparavant François Ruffin dans La Basse J'y suis. Merci à tous. Merci à Pierre Concialdi, Jacques Fayol, Michel Husson, tous trois économistes à l'IRES, qui, je pense, ont dû être consultés par François Ruffin. Merci également à Stébar, à lire Partage des richesses, la question taboue, un article de Ruffin dans le Diplo de ce mois-ci. Et puis, sur labas.org, dans un instant, ou dans la soirée, vous aurez une bande dessinée qui vous raconte ce que Ruffin vient de vous raconter. Un hold-up géant, c'est une bande dessinée publiée dans Fakir, le journal de François Ruffin. Tout cela, toutes ces informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi donc que sur là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Claudine Laperson et Henri Béret, Kian Chouka et Koye Nguyen ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Attend vos messages et vos réactions qui vont être nombreuses et chaudes, j'en suis sûr, dans le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. Et comme il nous reste quelques instants, on va se mettre ceci dans les oreilles. Ça aussi, pub.